Merci Sandrine et bonjour à tous. Aujourd'hui, une figure à la fois célèbre et méconnue du cinéma français, Louis Malle.
Qu'est-ce que j'ai qui plaît tant et qui plaît si peu? Louis Malle.
D'histoire. Avec une palme d'or, un Oscar, deux prix Louis de Luc et deux Lions d'or à Venise, Louis Malle fut un des cinéastes français les plus récompensés. Un des plus critiqués aussi. Fils d'une très grande famille du Nord, on lui reprochait son dilettantisme, son refus des étiquettes et surtout des films qui ont fait scandale en s'attaquant au tabou de l'adultère, de l'inceste, de la prostitution enfantine et de la collaboration pendant la guerre. Mais bien avant les critiques qui ont accueilli Les Amants, Le Souffle au cœur, La Combe Lucien ou La Petite, Louis Malle, dès son premier film, était entré dans le cinéma par la grande porte sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour y recevoir une palme d'or. Mais en 1956, personne n'avait encore entendu parler de lui. À 23 ans, il n'avait pas la célébrité de celui avec lequel il avait réalisé Le Monde du Silence.
Et voici le grand triomphateur, le commandant Cousteau. Et je voudrais vous demander, vous, comment vous avez préparé un tel film?
Eh bien, nous avons essayé avec mon jeune camarade Louis Malle, qui est ici, de mettre...
Vous avez dit pendant la séance qu'il était très jeune, en effet. Quel âge est-il?
Oui, je crois qu'il a 23 ans.
Oui, j'ai 23 ans.
Il paraît un peu plus jeune encore.
On n'est pas tellement jeune, on va dire.
Ce qui m'épate le plus, moi, c'est le scénario fait d'avance, avec toutes ces bêtes extraordinaires.
Oui, mais prêt à tout changer à la moindre occasion, et c'est par changements successifs qu'on est arrivé finalement.
Parce que je suppose qu'il y a tout de même des choses à
prévisibles. Louis Malle est un audace, mais ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que la façon que vous avez vue tout à l'heure, c'était à très peu de choses près celle qu'il avait pas vue à l'avance. C'est, je crois, son meilleur mérite dans ce film.
En avant 400 tours, cap aux 5 ans.
Bien, commandant.
Allô, plage arrière. Barré pour la bouée, Falco et Puig, équipez-vous. Allô, plage arrière, envoyez.
Pierre Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma et auteur d'une monumentale biographie de Louis Malle qui vient de sortir chez Plon. Alors, Louis Malle que l'on vient d'entendre, il avait 23 ans, je pense que c'est certainement sa première interview.
Oui, j'avais jamais entendu
son premier film.
C'était un drôle d'effet, mais...
Alors, bon, c'est un film qui a fait rêver, Le Monde du Silence. On a toujours dit, c'est vrai que c'est le commandant Cousteau. On oublie que Louis Malle, c'est son premier film, il l'a fait avec Cousteau.
Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, il reste encore le plus jeune détenteur d'une palme d'or à Cannes, puisqu'il l'a obtenu à 24 ans. Et personne n'a encore battu ce record. Ceci dit, ce film qui a gardé un certain éclat, une grande réputation, Louis Malle aurait été le dernier à en dire du bien, ou du mal d'ailleurs, car il détestait en parler. Et ses déclarations, vous pouvez reprendre les dossiers, sont extrêmement brèves. Car le film s'était terminé dans un climat de division entre Cousteau et lui. Mmh. C'est resté entre eux, et comme le contrat de confiance, c'était que Cousteau s'était engagé à lui faire signer le film, co-signer le film par Louis Malle, Louis Malle n'allait pas se désolidariser de ce film qu'il signait. C'était une question de morale élémentaire, ce qui n'empêchait pas que le film avait dépassé l'aspect documentaire auquel Louis Malle était fidèle pour entrer dans une voie spectaculaire, disons Walt Disneyienne, ouais. que Louis rejetait absolument.
Avec un comédien célèbre qui était Joël Mérou.
Joël Mérou, qui, comme il dira plus tard quand il va commencer à faire ses films, j'avais du mal avec les acteurs parce que le seul acteur que j'avais dirigé jusqu'alors, c'était un poisson.
Alors, il avait 23 ans pour Le Monde du Silence quand il a obtenu sa palme d'or. C'est quand même quelqu'un, Louis Malle, qui n'est pas prédestiné par son milieu familial à faire du cinéma. D'ailleurs, c'était plutôt mal vu dans sa famille, qu'il faut rappeler, était une grande famille sucrière du Nord. Il y avait d'ailleurs tellement d'argent dans cette famille qu'un jour, un journaliste de l'Express avait demandé à Louis Malle, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme film si vous avez 100 millions? Et Louis Malle lui répond, je les ai déjà.
Hein. Oui, il les avait de naissance. Encore que cette anecdote, en fait, dissimule la manière dont Louis Malle a travaillé, car toute sa vie professionnelle a été menée suivant des voies banales, je dirais, pas du tout en milliardaire excentrique. Enfin, ceci dit, ses origines sont effectivement de très haute bourgeoisie et très riche. Cette famille, c'est la famille Béguin, c'est-à-dire le sucre que nous avons tous consommé un jour ou l'autre, même encore aujourd'hui. Et il n'a rien connu des misères de la vie. Ça devait bizarrement l'entraîner, non pas à un esprit petit ou grand, bourgeois, mais à une rébellion contre ses valeurs qui avaient été celles de son éducation.
Oui, parce qu'il est révolté contre son milieu, plus que d'ailleurs que contre sa famille, Pierre Billard. Alors, vous dites qu'il n'a rien connu des misères de la vie. Elles apparaissent quand même dans ses films, les misères de sa jeunesse, et notamment une qui l'a très profondément marqué, qui est cet enfant juif qui était en classe avec lui à l'école d'Avon, et qui, pendant la guerre, a été dénoncé, qui était caché par les religieux de l'école, et qui a été dénoncé et arrêté, donc, par la Gestapo, qui a été déporté, et il a fait beaucoup plus tard, en 1987, ce film, il en a fait un film qui s'appelait Au revoir les enfants, et donc il a dit, je n'ai fait de cinéma que pour pouvoir raconter cette histoire.
Oui, je suis pas absolument convaincu que du bien fondé de cette remarque, mais en tout cas, cette situation a joué un grand rôle dans sa vie. Peut-être pas exactement comme on l'entend, à savoir qu'il a été témoin d'une chose terrible et que sur le champ il s'est dit il faudra qu'un jour je raconte ça. Tout indique au contraire que Louis n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et ça sera intéressant de suivre la manière dont le film sera construit. Témoignage précis, authentique sur l'essentiel de l'événement. Il y a des enfants juifs réfugiés dans la maison religieuse, dans l'école religieuse où il est élevé. La Gestapo arrive, elle arrête ses enfants, ils sont déportés, ils ne reviendront pas. Et l'école est fermée, c'est tout un drame s'ensuit. De tout ça, Louis, qui a 7 ans, ne perçoit que des difficultés, du remous, des choses un peu dramatiques. Et donc, quand il fera son film, il essaiera de se mettre lui, l'enfant qui l'incarne par rapport à ce jeune juif qui est le vrai héros, à se mettre dans une situation plus favorable que celle d'ignorance absolue qui était la sienne. Il y a donc dans ce film,
c'est un film du remords au fond.
Voilà, c'est plus un film du remords que du souvenir.
Alors ce film est de 87, c'était bien après l'événement qui le relate.
Mais justement, ce qu'il y a de vrai dans la fameuse phrase, c'est que cet événement et cette partie tragique de cette vie des années 42, 43, 44, 45, elle va fonder ce qui va devenir plus tard un thème de tout son cinéma, c'est la perte de l'innocence, le fait qu'on vit jeune, adolescent dans une vision du monde, que la brutalité, la cruauté des adultes, le mensonge des adultes viendra faire éclater.
Alors en tout cas, bien avant Au revoir les enfants, et juste après Le monde du silence, qui était un documentaire, Louis Malle réalise son premier long métrage en 1957, Ascenseur pour l'échafaud, l'histoire d'une femme adultère qui fait assassiner son mari par son amant, Maurice René, Jeanne Moreau et la trompette de Miles Davis.
Quelle heure est-il ?
7 heures.
Embrasse-moi. Je t'attendrai à la terrasse du Royal Camé, comme d'habitude. Quand tout sera fini, tu prendras ta grosse voiture, tu t'arrêteras en face. Je monterai à côté de toi. Et nous serons libres. Libres, Julien.
Ou bien?
Je t'attends. Je n'attends que toi. Dans une demi-heure, Julien.
Thank you.
écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Louis Malle.
Et vous écoutiez Miles Davis, la musique d'ascenseur pour l'échafaud. Pierre Billard, quand le film est sorti, on a presque autant parlé de Miles Davis et de sa musique que du film lui-même.
Oui, c'est un véritable événement d'avoir une musique du jazz qui a été inspirée par le film et qui a été improvisée devant l'écran en projection. Ça, c'était l'innovation technique. Mais par ailleurs, le film, la musique apporte une force, une dimension dramatique incroyable. Et Louis Malle, quand il n'était pas content de son montage, il trouvait ça sec et triste. Quand il a pu mettre cette musique sur son film, tout d'un coup, a trouvé son film merveilleux et il avait raison. La musique est un apport essentiel de ce film.
Et alors, le scénario était de Roger Nimier. Ce qui est étonnant, c'est que dans la plupart des cas, Louis Malle fait appel à des écrivains, soit en les adaptant, soit en leur demandant d'écrire un scénario. Lui-même ne se considérait pas comme un auteur. Il était contre ce qu'on appelle la politique des auteurs, Pierre Billard.
Oui, il était, sauf dans deux ou trois cas de films typiquement autobiographiques qu'il a écrit tout seul, comme Le Souffle-Cœur, et dans la plupart des cas, il a fait appel à des écrivains. Il ne se considérait pas comme auteur dans le sens qu'on donnait à cette époque-là à cette expression qui définissait toute une école très très étroite, alors que lui ne considérait pas le cinéma comme un art qu'on devait étudier en tant qu'art. Pour lui, le cinéma, c'était un instrument qui permettait de découvrir le monde. C'était ce qu'on montrait qui était important, et pas les raffinements esthétiques. Et s'il y avait des raffinements esthétiques dans ses films, et Dieu sait qu'il y en aura, ce ne sera jamais par rapport au développement d'un art ou dans un souci d'innover, ça sera toujours pour aider à montrer plus de choses.
Et pour mettre en valeur des textes dont je disais Roger Nimier pour Ascenseur pour l'échafaud, Louise de Villemorin pour les Allemands, pour les Allemands, c'était un premier scandale en 58. Drieux La Rochelle dont il adapte Le Feu Follet, Georges Daria dont il adapte Le Voleur, l'histoire comme par hasard d'un jeune bourgeois qui devient cambrioleur, c'était donc Louis Malle évidemment. Hein. Et puis alors il y a eu Raymond Queneau, auteur de cet extraordinaire dialogue de Zazie dans le métro, une petite fille, Zazie, jouée par Catherine de Mongeau et son oncle Philippe Noiret, une scène qui aurait pu être tournée ces jours-ci dans le métro parisien.
Alors.
Salaud, une vache, moi qui c'est à moi.
Il n'y a pas qu'à toi qui font ça.
Je m'en fous, n'empêche que c'est à moi que ça arrive. Moi qui étais si heureuse, si contente et tout de m'aller voiturer dans le métro. Ça comble merde alors.
Il faut se faire une raison.
Et quand est-ce qu'il va finir cette grève?
Je sais pas, moi, je fais pas de politique.
Moi, j'irai à l'école jusqu'à 65 ans.
Jusqu'à 65 ans?
Oui, institutrice.
C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite.
Retraite, mon cul? Moi, c'est pas pour la retraite.
Mais alors, pourquoi que tu veux être institutrice?
Pour faire chier les mômes. J'arrive vache comme ça avec elle. J'en ferai aller chez le parquet. J'en ferai manger les poches du tableau noir. J'en renfoncerai les compagnons derrière. J'en botterai les fesses. Parce que j'aurai des bottes en hiver. Avec de grands éperons pour leur larder la peau du verre.
Mais beaucoup rient, hein, Pierre Billard, nous aussi d'ailleurs, hein, l'institutrice de 65
ans, c'est toujours
d'actualité, voilà, le métro qui est fermé pour cause de grève. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire surtout, c'est que Zazie dans le métro, c'est en 1960, c'est un des premiers films de Louis Malle, et là, il signe un film comique après avoir fait un documentaire, donc Le Monde du Silence, un policier, Ascenseur pour l'échafaud, un drame social avec les amants. L'éclectisme de Louis Malle, c'est incroyable, il est très touche à tout.
Oui, absolument, c'est cette diversité d'ailleurs qui explique la difficulté qu'il a à être reconnu, à être identifié. On ne peut pas lui mettre d'étiquette. Alors il y a deux problèmes avec cette étiquette. Le premier problème, c'est que lui refuse les étiquettes. Et dès qu'on lui dit par rapport à ce problème de la Nouvelle Vague, par exemple, il n'a pas été reconnu membre de la Nouvelle Vague. Si on disait qu'il faisait partie de la Nouvelle Vague, il était furieux. il y faisait partie de rien. Il n'était pas question de l'agglomérer à un groupe quelconque. Mais si on ne le mettait pas, il se voyait isolé et il trouvait ça anormal, car il aurait dû, à cause de son âge et de son travail, y être. Et on mesure là la difficulté de le cerner, parce que la contradiction est toujours à la base de son travail.
Alors, il y a quand même une cohérence et un fil conducteur, vous le dites bien, Pierre Billard, dans votre livre, c'est qu'il est d'une certaine manière présent dans tous ses films, par exemple. Le Feu follet en 63, c'est l'histoire d'après Drieux-La Rochelle d'un suicide, et il dit, oui mal dit, c'est un film extrêmement personnel, incroyablement proche de moi. Est-ce que c'était à désespérer, Louis Malle ?
Non, à désespérer dans la vie générale, je n'emploierai pas ce mot-là, mais c'était un pessimiste. C'était quelqu'un qui voyait toujours où quelque chose ne marchait pas. Par exemple, c'est le pire critique qui ait existé sur ses propres films. Dans ses notes, il dit des choses sur ses films qu'il n'aurait jamais supportées chez les autres. Ça, c'est la caractéristique principale. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est en antithèse complète avec sa réputation et son image extérieure. Le jeune homme brillant, le grand séducteur riche, etc.
Deux fois marié, des femmes magnifique, était oui, pour beaucoup des comédiennes.
Une vie couverte de femmes.
Candice Bergen, Marie Laforêt, Jeanne Moreau.
Oui, c'était bien. Attachant, il y était très attaché. Et il faut dire qu'il a eu dans sa vie des compagnes nombreuses qui avaient toute la beauté et surtout un caractère, une intelligence, un brillant qui supposait qu'il n'y avait pas que les choses de la chambre qui comptaient, mais aussi une fréquentation plus élevée et plus intelligente.
Vous avez dit, Pierre Billard, qu'il était plus sévère avec lui-même que les pires critiques. Je ne suis pas sûr, parce que, écoutez, les critiques qu'il a reçues au moment de la sortie d'un film où il était question d'un inceste entre une mère et son fils, ce film, c'était Le Souffle au cœur, qui a provoqué une avalanche de lettres adressées à Michel Pollack sur France Inter en 1971.
Et je voudrais dire, oui mal, que j'ai reçu pour la première fois de ma vie des centaines, ça c'est ce qui est arrivé ce matin, tu vois, j'ai pas encore ouvert, des centaines de lettres d'insultes. On reçoit des lettres de ce genre. Vous et vos invités, vous êtes une abominable bande de pourris. Vous ne méritez pas le nom d'homme. On a honte d'être physiquement vos semblables. Vous êtes des bêtes vicieuses. On aimerait lui couper le sexe à Louis Malle. Je lui signale. Vous êtes des chiens enragés, vicieux, qu'il faut abattre. C'est agréable d'en recevoir des lettres comme ça. Un monsieur qui lui a le courage de citer son nom, qui est pharmacien à Toulouse, et qui nous dit un sujet infect. Une bande de truands. Alors, il souhaite qu'une bande de truands vienne pour dérouiller les quelques vicieux, salopards, enculés, dégueulasses et vomitifs, soi-disant littéraires, avec en tête Mal et Moravia. Deux M comme deux merdes. Voilà. C'est bien.
Puis c'est pas dans la nuance, hein, Pierre Billard, c'est critique.
Non, c'était il faut dire que il faut faire attention à l'emploi du mot critique, parce que là, il s'agit de courrier, de spectateurs, oui. Et pas
non, une critique peut-être positive, pas de journaux. Mais là, c'est des attaques.
La presse avait été plus tolérante que ça, bien qu'il ait été aussi fort, fort attaqué. Mais la chose intéressante, je trouve, dans le Souffle au cœur, c'est que, comme souvent dans ces films, l'inceste, qui joue un rôle important, fait 8 minutes du film, et que
on a retenu que ça.
Pendant 1h30, on a un reportage sur son adolescence absolument authentique, alors que rien dans l'inceste ne venait de sa vie. Et c'est, on trouve là comment le mélange des contraires.
Alors on a attaqué donc ce film pour l'inceste, on a attaqué les amants parce que il y avait de l'adultère, on a attaqué la petite parce que il y avait la prostitution enfantine, et puis alors on a attaqué un film pour des raisons politiques, c'est La Combe Lucien, hein, qui effectivement à sa sortie, c'est l'histoire d'un jeune français qui rentre dans la milice après avoir été chassé de la résistance où il voulait entrer, donc il y devient milicien collaborateur par hasard, et ça a provoqué des réactions à la fois enthousiastes et scandalisées de la presse de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, il faut d'abord rappeler que le film sort dans un climat passionnel, hein, depuis Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls en 71, depuis l'amnistie de Paul Touvier en 72, donc les Français se sont remis à parler de l'occupation préoccupations, de leurs responsabilités pendant cette période. C'est donc dans ce contexte que sort L'Acombe Lucien. Alors le film, dans un premier temps, est plutôt encensé par les grands critiques du cinéma. Nous avons enfin là le chef-d'œuvre que nous attendions depuis longtemps, s'exclame par exemple Robert Charansol des Nouvelles Littéraires. Un film dont on sort remué, bouleversé, angoissé, écrit Jean de Baroncelli dans Le Monde. Bref, un chef-d'œuvre, dit-il. Pour Henri Chapier, dans Combat, L'Acombe Lucien est le premier film vrai, sans concession ni excès, sur cette page importante de notre histoire. Et Jean-Louis Bory, le grand Jean-Louis Bory dans Le Nouvel Observateur, remercie Louis Malle pour, je cite, ce magistral portrait d'un pauvre type. Alors puis curieusement, c'est bizarre, hein, tout à coup on ne parle plus de cinéma et le ton change. L'Humanité trouve que Louis Malle décharge un peu vite le personnage de sa responsabilité. Le Parisien se demande également si le film ne vise pas à contrario à démythifier ceux qui ont eu le courage de choisir la voie de la résistance. Malle est aussi dans La Croix qui demande pudiquement « fallait-il oser ce film ?». Alors curieusement, Le Monde hein, aussi, qui donc on l'a vu avec Jean Baroncelli, avait parlé de chef-d'œuvre, se met aussi à douter « faut-il voir la combustion ?». Tandis que Pierre Vianson-Ponté, une signature plutôt politique du Monde, dénonce, je cite, « l'ambiguïté du film. Jusqu'à présent, dit-il, l'exaltation du patriotisme dans les films de résistance était mystificatrice. Aujourd'hui, dit-il, la dérision poussée à ce degré ne l'est pas moins. » Alors, les critiques les plus vives viennent de l'extrême droite, pour le journal Aspect de la France, Louis Malle, comme Sartre n'est qu'un imposteur, et de l'extrême gauche. Pour Delphine de Ton, dans Charlie Hebdo, L'Acombe Lucien est le premier film qui entreprend de déculpabiliser les fournisseurs en victimes de l'organisation nazie, c'est, dit-il, du cinéma d'extrême droite. Très énervé aussi, Serge Danet dans Libération, contre la conception de Louis Malle. Alors voilà ce qu'elle est selon lui. Les poubelles de l'histoire, ça se vide, les paumés, ça s'excuse. Grattez le fasciste et vous trouverez l'homme. Ras-le-bol, dit Serge Danet dans Libération, ras-le-bol de cette philosophie de con. Alors je terminerai par ces mots de Louis Malle qui, dans France Soir, parle lui-même de son film. Dans L'Acombe Lucien, dit-il, il n'y a pas de message. Ce que je cherche à projeter sur l'écran, c'est l'ombre et la lumière qui alternent sur les êtres, à l'intérieur des êtres, l'inexplicable.
Un commentaire sur ces critiques de L'Acombe Lucien, Pierre Billard?
Oui, cette critique de con, comme dirait Danet. L'un des problèmes et un des thèmes de Louis Malle, c'est le caractère indiscernable ou difficilement discernable de la frontière entre le bien et le mal. L'Acombe Lucien, c'est ça son vrai sujet. L'idée que son personnage serait typique de l'attitude des Français pendant l'occupation est une chose qu'il n'a même pas effleurée. Alors, quand on l'attaque sur l'image qu'il donne de la France, il ne comprend même pas de quoi on lui parle. Lui, il parle d'autre chose, il parle de ce thème fondamental chez lui. L'homme naît bon, c'est la société qui le rend mauvais, la fameuse thèse de Jean-Jacques Rousseau. Et L'Acombe Lucien est l'illustration de ça.
Alors on écoute justement Louis Malle en janvier 95, 10 mois avant sa mort, rappeler justement les critiques dont il a fait l'objet pendant toute sa carrière de cinéaste.
Je continue à penser que L'Acombe Lucien était un film assez exceptionnel. Il a déclenché une polémique gigantesque qui était très bonne, très utile, qui a en tout cas forcé les gens à réfléchir. L'Acombe Lucien, c'était l'exemple parfait, mais j'en ai fait beaucoup d'autres comme ça. Par exemple, pourquoi est-ce que Les Amants, le film qui m'a un peu rendu célèbre, a été un tel scandale dans le monde entier? C'est parce que c'était l'histoire d'une femme mariée avec un enfant très jeune et qui partait avec un étudiant qui avait 10 ans de moins qu'elle, et c'était une proposition qui dérangeait beaucoup à l'époque. Même, je me rappelle, quand j'avais fait mon premier film aux États-Unis, qui était La Petite, autour de la prostitution enfantine, qui existait à l'époque d'une façon complètement officielle, on m'a accusé d'avoir fait un film qui était une sorte d'apologie de la prostitution enfantine. De même que L'Acombe Lucien, on m'a dit que c'était l'apologie de la collaboration. C'est pas ça du tout. C'est de montrer justement quelque chose qu'on ne doit pas voir et de forcer les gens à le regarder.
Montrer des choses qu'on ne doit pas voir et forcer les gens à le regarder. C'est ça le cinéma de Louis Malle, Pierre Billard. En même temps, on sent bien que c'est pas un révolté. Enfin, il est très classique même dans.
Oui, oui. Je crois que sa volonté de scandale était beaucoup plus faible que celle qu'on lui prête. Je crois que le scandale, il était dans sa tête et il la portait sans le vouloir. Mais c'est vrai que il n'est jamais retenu par l'idée de comment est-ce que les gens vont digérer ça. C'est un problème qui ne se pose pas. Et alors, ça a des inconvénients.
Il est mort d'un cancer le 24 novembre 95. Il avait 63 ans. Il est mort dans des conditions épouvantables, vous le rappelez, Pierre Billat. Vous nous avez dit qu'il n'appartient à aucune école, il n'a pas de maître. Est-ce qu'il a des élèves? Est-ce que, au fond, le cinéma français s'inspire encore de Louis Malle? Et est-ce que c'est encore... est-ce que ces films ne sont pas un peu...
Il a impressionné un groupe de gens qui ont travaillé avec lui à ses débuts et qui s'appellent Alain Cavalier, Jean-Paul Rapneau, Volker Schlendorf et quelques autres. Et je pense que dans chacun de ces cinéastes-là, on retrouverait des traces de l'influence de Louis Malle. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une école de Louis Malle. Quand on dit qu'il n'y a pas de maître, vous avez raison. Néanmoins, il y a un cinéaste auquel on peut le rapprocher, duquel on peut le rapprocher, et on n'en parle jamais, c'est Luis Buñuel. Je crois que le cinéaste qui a le plus influencé Louis Malle, c'est Luis Buñuel. Et je crois que l'importance qu'avait l'absurde, l'absurde chez Ionesco, l'absurde chez Camus, l'absurde chez Queneau, pour Louis Malle, se reflète dans ce lien Buñuel-Malle.
Merci Pierre Billat. Alors pour en savoir plus, et même beaucoup plus, puisqu'il s'agit d'un livre de plus de 500 pages, je recommande la lecture de votre livre, donc Louis Malle, le rebelle solitaire, qui vient de paraître chez Plon et signé donc Pierre Billat, qui était mon invité aujourd'hui. Vous êtes également d'ailleurs l'auteur d'une biographie de René Clair chez Plon également. Vous avez pu entendre des extraits d'un CD distribué par Ovidis qui rassemble des musiques et des dialogues des films de Louis Malle. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Daligo, Anne Le Guéhennec, Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser, Sandra Escamez. La revue de texte était de Stéphanie Duncan et la réalisation d'Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.